L'hôpital européen de Marseille, ouvert à l'été 2013 après la fusion des hôpitaux Ambroise Paré dans le 6e et Paul Desbiev dans le 3e, bâti au cœur de d'Euroméditerranée, a réduit, comme le lui demandait l'Agence régionale de santé, le déséquilibre de l'offre de soins entre le nord et le sud. Monsieur Jean-Luc Delmas, ce déséquilibre, il est patent, il se voit de votre établissement.
C'est vrai que entre le sud et le nord, il y a une différence flagrante. On a à peu près la moitié de la population dans le sud, la moitié de la population dans le nord. Mais dans le nord, on a à peine un quart des installations sanitaires. Les trois quarts sont dans le sud de la ville. Et c'est vrai que quand on est sur la terrasse de l'hôpital, quand on regarde devant nous, on a une ville avec 450 000 habitants et pas d'établissement. Il faut aller regarder tout au bout de la colline pour voir nos confrères de l'hôpital nord.
Votre offre hospitalière, ce n'est pas le public, c'est le privé, sans but lucratif. Votre situation nécessaire, comme tout établissement, vous êtes obligé d'avoir un équilibre financier. Vous l'avez ?
On l'a pas exactement, je vais y revenir, mais un mot quand même sur le secteur. Dans le secteur privé à but non lucratif, il y a un auteur qui a quelques années parlé du modèle invisible. Un modèle... mais invisible, c'est-à-dire pas assez bien connu, on le vend peut-être pas assez, et pourtant le privé non lucratif, c'est beaucoup d'associations en France, il y en a au moins 2000 dans le secteur de la santé dans notre région, et c'est un secteur qu'on retrouve partout, dans le social, dans le médico-social, dans le sanitaire, avec des grosses entités comme Saint-Joseph, comme l'Hôpital Européen, comme d'autres encore, et puis des toutes petites associations, mais leur particularité, c'est qu'elles sont indispensables au maintien du tissu social national. Et donc ces associations qui parfois fonctionnent avec des petits moyens, elles sont vraiment stratégiques et leur rôle n'est pas assez bien mis en valeur. C'est aussi le rôle de notre fédération d'établissements à but non lucratif. Donc pour revenir à votre question, l'hôpital européen n'est pas encore à l'équilibre financier. J'insiste sur le pas encore parce que je pense qu'on est en route pour atteindre cet équilibre. Et ça pour une raison essentielle. Tous les établissements sanitaires français connaissent une baisse des tarifs importante depuis 2009. Les tarifs avec lesquels on travaille, qui sont fixés nationalement, ont diminué à peu près de 5% depuis 2009. Et en même temps, on a une inflation qui continue de progresser, même si elle n'est pas très importante, des thérapeutiques qui, elles, progressent de manière très très importante. Donc il y a un décalage entre les tarifs et le coût de nos prestations. Ça, c'est une situation générale. La particularité, le petit détail pour l'hôpital européen, c'est que nous, dans cet intervalle de temps, on a investi 254 millions grâce aux aides de l'État et aux emprunts qu'on a pu réaliser. Et ces 254 millions, aujourd'hui, il faut les rembourser. Donc c'est la cause principale de notre déséquilibre financier actuel, mais qui est en voie de réduction. On a malgré tout, et heureusement, la confiance des banques, la confiance de l'Agence régionale de santé, et une trajectoire qui s'améliore, mais ça nous impose d'être encore plus efficace, de continuer notre progression d'activité. C'est un chemin qui est un petit peu long.
254 millions d'investissements, c'est de l'équipement high-tech, c'est des salles d'opération.
Alors 254 millions, c'est uniquement les travaux, viennent s'ajouter à ça à peu près 60 millions d'équipements. Donc on voit quand même le volume sur lequel on est. Et comme on est une fondation, certes reconnue d'utilité publique, mais une fondation, donc on n'a pas d'actionnaires, on n'a pas de fonds de pension qui va venir investir chez nous. Donc c'est uniquement l'argent produit par le travail des gens qui sont dans l'hôpital aujourd'hui. Donc on travaille sur nos fonds propres. On a vendu tous les actifs qu'on pouvait avoir, l'hôpital Ambroise Paré, l'hôpital Desbiev pour financer. Et puis l'État nous a aidés également dans la construction.
Donc l'hôpital européen, c'est un hôpital privé sans but lucratif. Quel lien est-ce que vous en avez d'abord avec le secteur public? Alors je pense au UDE, CHU, c'est universitaire, des internes, de la formation.
Alors la formation, c'est une des missions de la fondation également. Donc on travaille en partenariat très étroit avec l'école d'infirmières de la Blancarde pour la formation des personnels infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture. Et puis également avec l'université, avec la faculté de médecine, puisque nous sommes terrain de stage d'internes depuis quelques années maintenant. On n'a pas beaucoup, on a 8 dans l'établissement, donc on s'en occupe bien, mais on contribue aussi à cette mission de formation. Donc ça, c'est le lien avec l'université. Plus les travaux de recherche qu'on conduit en lien avec plusieurs services hospitaliers universitaires, marseillais, puis pas uniquement marseillais, on a d'autres liens avec d'autres établissements.
Alors maintenant, pour la fréquentation, après 4 ans, vous affichez 50 000 séjours, 250 000 consultations, 100 patients par jour aux urgences. Une progression vraiment continue depuis 4 ans ?
Une progression très importante qui est allée au-delà des prévisions sur lesquelles on avait tablé. Donc ça, c'est, entre guillemets, c'est l'illustration de la réussite de notre implantation et le fait que l'hôpital, là où il est situé, répond à un besoin de santé extrêmement important. Et donc cette progression, elle est constante. Elle va forcément venir se ralentir et l'hôpital va arriver à son rythme de croisière, mais j'ai le sentiment qu'on n'y est pas encore tout à fait.
Parmi cette clientèle, il y a une part justement d'habitants autour. On sait que ce quartier, il est très pauvre et d'extérieur, les parts respectives.
Alors, je crois que le 3e arrondissement fait partie des arrondissements les plus pauvres de France. Donc, la fréquentation hospitalière se répartit de la façon suivante. On a à peu près la moitié de nos patients qui viennent des quartiers nord de Marseille, 25% qui viennent de l'extérieur et 25%, donc de l'extérieur de la ville, et 25% qui viennent du sud de la ville. Donc, c'est quand même une répartition relativement homogène qui montre que l'hôpital a une bonne attractivité. C'est-à-dire qu'à la fois, il répond aux besoins de proximité, mais aussi, il a une attractivité extraterritoriale importante.
Votre personnel maintenant, on sait que vous employez des médecins libéraux qui viennent ici pour des consultations en secteur 1, c'est-à-dire complètement remboursés, c'est bien ça ?
Alors c'est tout à fait ça. Une singularité de notre établissement par rapport aux autres établissements en France, c'est d'employer des médecins libéraux, c'est le cas également de la Fondation Hôpital Saint-Joseph à Marseille. Donc des médecins libéraux qui sont en secteur 1 ou en secteur 2. Le secteur 2, c'est le secteur avec un droit à dépassement. Mais lorsqu'ils sont sur l'hôpital européen en consultation, ils pratiquent le secteur 1. Donc ça permet à des personnes qui n'auraient pas accès à ces praticiens habituellement d'y avoir accès dans le cadre de l'hôpital.
Maintenant, le personnel comme les infirmières ou bien peut-être un cuisinier, une cuisinière, parce qu'on sait là qu'il y a quand même une pente à faire venir des gens de l'extérieur. Est-ce que c'est le cas chez vous ?
Alors non, il n'y a pas de difficulté à faire venir du personnel de l'extérieur, j'allais dire de l'extérieur du secteur, puisque si on prend la façon dont s'est passée l'ouverture de l'hôpital, il y a quasiment aucun salarié, ni d'Ambroise Paré, ni d'SBF, qui ne soit pas venu sur l'hôpital européen. Tout le monde a suivi le projet, y compris les médecins libéraux installés, place Castellane, boulevard Perrier, etc. Ils sont tous venus sur le site. Donc le projet a vraiment fédéré, mobilisé beaucoup de personnes. L'hôpital européen, c'est plus de 1000 salariés qui vont en temps plein, plus de nos 300 médecins libéraux. Et donc ce transfert géographique s'est bien passé, et également la fusion entre des personnes d'origine différente, d'origine géographique différente dans Marseille, s'est extrêmement bien passé.
Alors vous avez une cuisine sur place ?
Alors on a une restauration qui est sous-traitée. Et si je peux embrayer sur ce sujet-là, la force principale de l'hôpital, c'est des hommes et des femmes qui y travaillent tous les jours. C'est vraiment ça, notre vrai capital, si on en a un, c'est celui-là. C'est à la fois leur engagement, sur leur motivation et aussi leurs compétences, leur professionnalisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Souvent, on a tendance à parler de ressources humaines. Même le terme, moi, me plaît pas trop parce que ressources, ça fait un peu variable d'ajustement. Et en réalité, c'est le capital sur lequel l'hôpital se construit. S'il n'y a pas de soins de bonne qualité, s'il n'y a pas des professionnels de bonne qualité derrière.
Alors justement, les soins, parlons-en. Ces soins, quels qu'ils soient, est-ce que vous les faites en réseau ? Est-ce que quelqu'un qui est opéré chez vous, par exemple en ambulatoire, on sait que ça monte, eh bien, il a un suivi, il peut aller dans une maison de suivi, il peut rentrer chez lui.
Alors l'hôpital, c'est pas une île déserte. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que la trajectoire de soins des patients, elle passe par chez nous, mais elle n'est pas totalement chez nous. C'est-à-dire le diagnostic va être posé en ville, il y a un médecin traitant qui va s'apercevoir que le patient a quelque chose qui ne va pas, il va appeler son confrère spécialiste, peut-être en ville ou peut-être à l'hôpital, et c'est comme ça que les gens viennent, passent chez nous, ressortent, parce que la durée de séjour moyenne dans l'établissement, c'est 4 jours, et 70% de nos séjours sont faits en ambulatoire, donc en séjour d'une journée. Et ensuite, les gens ressortent. Soit ils vont à domicile, soit ils vont en soins de suite, soit ils vont en hospitalisation à domicile, en rééducation. Donc l'hôpital, c'est un élément du système. Et ça, c'est très important de bien le comprendre. C'est-à-dire qu'on a une collaboration absolument indispensable avec la médecine de ville et des liens derrière avec les infirmiers libéraux, avec les structures de soins de suite et réadaptation. La particularité de l'hôpital européen, quand même, c'est d'avoir fédéré une partie de ces acteurs, puisqu'on a sur le site, on a d'abord un laboratoire de ville, donc le laboratoire Alphabio qui a suivi notre projet. On a un centre de rééducation UGCAM qui venait, donc qui est l'ancêtre, entre guillemets, enfin non, plutôt l'héritier du centre de rééducation UGCAM de Valmante, qui nous a rejoint. Donc on a déjà fédéré une partie de ce réseau. L'hôpital européen, c'est un réseau de soins déjà à part entière. Et puis après, derrière, il y a toutes les relations avec les autres acteurs du secteur PNL, du privé commercial, et du secteur public également, bien sûr.
On dit que l'important, c'est de faire, bien sûr, de l'ambulatoire, mais aussi de traiter les maladies chroniques qui, en fait, plombent un peu la situation financière de tous les hôpitaux. Alors, est-ce que vous accueillez des maladies longue durée ?
Je ne vais pas bien répondre à la question. Parce qu'on peut pas opposer l'ambulatoire et les maladies chroniques. Un patient qui a un diabète, par exemple, qui a une maladie chronique, il va faire des séjours en ambulatoire à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à un développement de ces pathologies dites chroniques. Et tant mieux d'ailleurs, parce que si on prend, par exemple, le cancer, avant on mourait de son cancer. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus, on en meurt toujours malheureusement, mais ça devient de plus en plus une pathologie chronique avec des personnes qui vont faire de multiples séjours en établissement, et on le sait aujourd'hui avec les progrès de la technique, avec des taux de guérison qui ne cessent de progresser.
Maintenant, la précarité, vous avez dit, on le sait, que le 3e arrondissement, c'est un arrondissement très pauvre à Marseille. Qu'est-ce que vous faites pour un malade en précarité ? Il y a un service d'urgence, mais après ?
Alors les patients en situation de précarité, c'est des patients, point. Ce sont des patients absolument comme les autres. Donc, un point extrêmement important, je fais la liaison avec la question précédente, c'est le développement de l'éducation thérapeutique. Souvent, ces patients en situation de précarité, ils sont un peu hors circuit. Ils n'ont pas de médecin traitant, ils n'ont pas la structure sociale que peuvent avoir d'autres personnes mieux insérées dans l'établissement. Donc, l'hôpital joue un rôle très important dans ce domaine-là, et notamment dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Et je fais le lien donc avec la question précédente, le diabète en particulier, et même la cancérologie. Donc, ce développement de l'éducation thérapeutique chez nous est important et vient compenser une certaine désinsertion sociale de nos patients. Ensuite, si je viens plus précisément sur le sujet de la précarité, donc ça représente à peu près, enfin les patients qui bénéficient de l'aide médicale d'État et de la CMU, c'est à peu près 20% de nos séjours, ce qui est beaucoup. Et j'allais dire encore, lorsqu'on a des patients aide médicale d'État ou CMU, ça veut dire qu'ils ont une prise en charge. Et il y a encore une frange de la population qui n'a ni l'un ni l'autre. Et là, on se trouve confronté à un problème d'une autre nature, d'une autre dimension. Donc pour cette frange-là de population, on est vraiment dans l'extrême précarité. On héberge sur l'hôpital un projet qui s'appelle ASAB, donc Accueil Santé des Sans-Abri. Donc c'est un réseau, en réalité, financé par l'Agence Régionale de Santé et également la Ville de Marseille, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et l'État. Donc de multiples financements pour essayer d'animer justement l'ensemble des structures qui contribuent à la prise en charge de ces personnes sans-abri. Ça se traduit notamment, et pour moi c'est important dans l'approche, ça se traduit notamment par une consultation médicale que nous réalisons, donc c'est un jour dans la semaine, sur rendez-vous, donc avec un filtre qui est assuré par le CHRS de la rue de Formin, qui va donc, entre guillemets, sélectionner des patients, nous les adresser. Et pourquoi je dis que c'est important ? Parce qu'on rentre dans quelque chose de structuré. On impose, entre guillemets, à ces patients qui sont dans une extrême précarité de rentrer dans un vrai parcours où il y a un rendez-vous qui est pris. Ils vont voir un médecin qui est un médecin spécialiste, en infectiologie notamment, et ils vont bénéficier de soins chez nous. Alors, ce sont souvent des soins gratuits. Après, le rôle de notre service social et du réseau ASAB, c'est de trouver une prise en charge à ces patients, parce qu'on sait que les patients en situation précaire, qui sont un peu en dessous des radars, souvent ils pourraient bénéficier d'une prise en charge, mais ils ne font pas les formalités nécessaires pour en bénéficier.
Oui, comme par exemple une retraite. Alors le CHRS,
c'est le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, autrement dit
l'accueil de nuit de la rue Forbin. Alors, autres malades un peu spéciaux, les malades en situation de handicap. Il y a des femmes, par exemple, en fauteuil roulant, qui se plaignent de ne pas avoir accès à certains plateaux. La gynécologie, par exemple, ici, c'est le cas ou pas ?
C'est un vrai sujet. L'accès aux soins des personnes handicapées, c'est un vrai sujet. Donc l'établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, il est de plein pied, on a des ascenseurs qui sont conformes, les portes sont conformes, les toilettes sont conformes. C'est important, du coup, d'insister sur cet aspect investissement, parce que c'est pas le seul problème, mais c'est malgré tout un des problèmes. Si on essaie de circuler en fauteuil roulant dans la ville, on va comprendre qu'en effet, on a besoin d'investissement. Donc, l'établissement est parfaitement accessible. Ensuite, les équipements médicaux, c'est encore une autre paire de manches. Donc, on a dans toutes nos unités des chambres handicapables, donc au niveau des unités d'hospitalisation. Le problème qui peut rester dans certains équipements, il ne faut pas se voiler la face, c'est l'adaptation de l'équipement médicaux aux personnes à mobilité réduite.
Dernière question quand même. Après 4 ans d'un bilan qu'on appréciera, votre futur ?
Bon, d'abord, moi, je dirais que notre bilan, globalement, il est positif. C'est-à-dire que c'est quand même une implantation qui est réussie. Si on imagine ce qu'était le quartier il y a 5 ans, ouais, il faut se le remettre en tête. Aujourd'hui, il y a un établissement, il y a une vie qui s'est créée autour, il y a d'autres structures qui sont venues s'ajouter à l'établissement. Donc, quelque part, ce service rendu à la population, il est réel, on peut le constater tous les jours. Je sais que le personnel de l'Agence régionale de santé, ceux qui prennent le métro, ils passent devant notre hôpital et tous les jours, ils se rendent compte des gens qui rentrent, qui sortent de l'activité et du service rendu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc, en effet, c'est les projets. Alors, pour moi, le plus important, c'est de revenir aux racines de l'établissement et à sa mission. Notre rôle à nous, c'est de répondre aux besoins de santé. Et dans ce domaine-là, il faut bien comprendre qu'on a construit l'hôpital, non pas avec cette réflexion logique, mais uniquement avec ce que nous détenions, nous, comme autorisation. En clair, si j'avais eu de la radiothérapie en Brosse-Paré, aujourd'hui, il y aurait de la radiothérapie à l'hôpital européen. Donc, il y a un besoin, mais l'équipement, il n'y est pas. Donc, pour moi, le projet d'avenir, c'est d'améliorer cette réponse aux besoins et de permettre que le parcours de soins soit une réalité, que ce ne soit pas un parcours du combattant, et qu'on ait comblé les manques de l'hôpital européen sur 3 sujets en particulier, la radiothérapie, la médecine nucléaire et ce qu'on appelle l'électrophysiologie, c'est-à-dire le diagnostic et le traitement des troubles du rythme cardiaque. Bon, c'est vraiment 3 autorisations qui nous manquent. Tout le monde le sait, l'Agence nationale de santé le sait, on va dire que quelque part ils partagent notre raisonnement. C'est vraiment là qu'on doit faire des efforts et arriver à faire avancer encore plus l'établissement. C'est notre projet prioritaire.